Espace 2. La vie à peu près, Jean-Marie Félix.
La vie à peu près, Florence Grivel vous propose cette semaine une série d'entretiens avec le peintre Alexandre Loy. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Depuis le début de la semaine, le peintre Alexandre Loy déroule son parcours d'homme et d'artiste en s'arrêtant ponctuellement sur quelques étapes importantes qui ont jalonné ce cheminement. Dans le chapitre précédent, hier, Alexandre Loy a évoqué son enfance, passée dans un village valaisan, entouré de parents, eux aussi artistes, et son adolescence aussi, marquée par un intérêt pour les fanzines et la bande dessinée. Aujourd'hui, il sera question plus particulièrement de sa formation au sein de ce qui s'appelait encore à l'époque les Beaux-Arts de Genève, devenu par la suite la HED, une époque, les années 1990, où la peinture figurative, ou simplement la peinture, n'était plus une technique dans l'air du temps. La tendance allait plutôt vers les installations et la vidéo. C'est donc à contre-temps et à contre-courant qu'Alexandre Loy a affiné sa technique personnelle, tout en se posant des questions vertigineuses du genre « l'art existe-t-il ou l'art peut-il s'apprendre ?» C'est tout cela que l'artiste a raconté au micro de Florence Grivel au cours d'un long entretien réalisé dans son atelier de Lausanne. Voici « La vie à peu près » selon Alexandre Loy, troisième épisode.
On a fait chauffer du café, Alexandre Loy, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir dans votre atelier lausannois pour ce troisième épisode de La vie à peu près qui vous est consacré. On est pas très loin de la région de Vidy, près du lac, je le disais, près du musée romain. Et puis voilà, il y a ce café dont on a encore l'arôme dans la bouche, la cafetière italienne, une forme très complexe à dessiner. Quelque chose qui a... C'est un objet, finalement, un objet de peinture, un objet à penser, en tout cas, artistiquement. C'est bien vrai?
Moi, je l'ai retenu parce que c'est le premier truc que j'ai dessiné, dessin d'observation aux Beaux-Arts. Dessin d'objet, ça s'appelait le cours. Avant, j'avais toujours fait des machins qui sortaient de ma tête. Je mettais des formes et des couleurs, puis je faisais des bonhommes avec des gros yeux. Puis tout à coup, ben voilà, il y avait ce cours. Puis moi, j'avais envie aussi d'apprendre comment on arrive à représenter ce qu'on voit. Il y avait dans cet atelier, il y avait plein de fatras de trucs. Il y avait des citrouilles séchées, des tasses, des bols, des pots, des branches, des machins. Puis moi, j'ai commencé à dessiner une cafetière. C'est un truc
une cafetière italienne.
C'est un truc un peu technique. Je me suis dit, il y a des lignes droites, des courbes. J'avais besoin de comprendre. J'ai jamais réussi à dessiner un fruit pendant très longtemps. C'est trop complexe. Il n'y a pas de règles. La cafetière, c'est les humains qui ont dessiné. Des lignes droites, des courbes. Il y a des petites choses qu'on sait. Les trucs ronds, ça devient des ellipses quand on les voit en perspective. Alors je me suis dit, bon, allez.
Non, mais là, c'est le mathématicien qui ressurgit, excusez-moi. Hein.
C'est clair. Ouais. Et puis le pauvre type, j'ai passé le premier jour, j'ai dit « ouais, mes ellipses sont pas assez bien ». Donc j'ai passé mon temps à essayer de dessiner une belle ellipse, à main levée, tout en mesurant les axes.
Vérité était ailleurs.
La vérité était totalement ailleurs, mais ça m'a pris pas mal d'années pour voir qu'elle était vraiment ailleurs. Les facettes qui sont organisées autour de l'ellipse, elles ont tous une taille apparente différente. Alors bien sûr, on peut les mesurer, y réfléchir et comme ça, mais à quelque part, c'est pas ça vraiment l'enjeu. Et puis il y a des trucs vraiment qui vous stressent, ça paraît incompréhensible. Le sommet de la cafetière, c'est un peu conique, donc il y a des lignes qui montent vers le milieu, puis après il y a des lignes qui descendent vers le bord. Mais sur la feuille, si on fait une ligne qui descend, elle est cachée par les autres. Donc en fait, ces lignes qui descendent sur ce couvercle de cafetière, depuis où je les regarde, elles descendent, mais en fait, elles montent dans mon champ visuel. Ah, je dis, mais ça, on comprend pas ces trucs. Je connais des gens qui dessinent d'observation avec facilité, un peu du premier coup. Mais moi, j'étais le roi de la bourde, j'ai commencé, j'ai posé toutes les mauvaises questions. J'avais tous les faux problèmes, je les ai rencontrés. Ce qui était super intéressant.
Justement, c'est ça aussi qui m'intéresse, parce que vous décidez justement de... d'entrer dans une école d'art, ce ne sera pas celle du Valais, ce ne sera pas l'ECAL, ce sera Genève. Pour quelle raison ?
Genève. Bon, l'école du Valais était un peu plus... on pouvait la commencer plus tôt. Hein. Moi, comme j'avais fait le gymnase, j'avais le droit d'aller à Genève. Ça semblait que c'était une école un peu mieux. Mon père m'a dit, va plutôt à Genève. Et puis c'est bien, c'était l'occasion aussi un peu de commencer à partir, tenter l'aventure. Il faut dire aussi que je n'ai pas été pris la première année. Donc j'ai commencé par venir à Lausanne. Voilà, je suis venu squatter à Lausanne.
Et pendant une année, vous repaufinez en fait un dossier pour passer le concours à Genève ?
Ouais, je commence la vie pendant une année.
Ça ressemble à quoi cette vie ?
Bah, habiter quelque part, maison, une maison en communauté, maison du désert, une maison à retaper.
Dans les Hauts-de-Lausanne ?
Dans les Hauts-de-Lausanne, une vie commune à créer. Et puis là-dedans, ben moi, à trouver mon petit rythme pour voir, parce que maintenant, c'est plus que je peux peindre seulement les week-ends et les vacances, c'est que c'est tous les jours. Donc, est-ce que j'arrive à travailler ? Est-ce que la motivation reste ? Oui, ben, je suis arrivé à bossouiller un petit peu. Je faisais mes petits horaires, mais un peu tous les jours, un peu de peinture.
Et vous subveniez comment à vos besoins ?
Bon, mes parents m'ont aidé. Et puis, ça coûtait pas cher la vie, comme ça. Puis une autre chose, c'est que j'ai pu faire des expos à ce moment-là.
Avant d'entrer au Beaux-Arts ?
Ouais, j'en ai fait plusieurs. Il y avait le Toit du Monde à Vevey, par exemple. C'est un truc dont je suis assez fier. Hein. J'ai fait une belle expo au Toit du Monde. Je vendais mes trucs pas chers du tout, mais ça semblait assez naturel. Comme ça, on pouvait faire des choses. Peut-être dans un milieu, on pouvait faire des choses. Enfin, j'ai organisé aussi des expos dans des maisons. Ouais, j'ai fait mes petits trucs comme ça.
Et donc, une année plus tard, de petits trucs, et de vous rendre compte, en fait, que vous avez la ténacité de chaque jour vous mettre à la peinture, vous réussissez à entrer à Genève.
À Genève, ils m'ont pris. À Lausanne, je suis pas arrivé à Lausanne parce qu'en fait, quand je me suis renseigné, c'était déjà trop tard pour l'inscription. Il est doué, le gars. Donc, voilà, je me suis retrouvé à Genève. J'ai fait les trajets. C'était cool.
Lorsque vous arrivez justement dans cette école d'art Alexandre Loye à Genève, quelles vont être un peu les premières choses que vous allez soit apprécier, soit déguster de certaines manières ? Enfin, qu'est-ce qui reste imprégné en vous de ces premières semaines là-bas ?
Oui, le tout premier moment, plutôt un petit peu la trouille, parce que d'abord je pensais que j'allais arriver puis qu'on allait me dire un peu ce qu'il faut faire. Puis je suis tombé dans l'atelier d'une prof assez âgée, un peu spécial, un peu la vieille dame indigne, je dirais, qui était très marrante. Mais voilà, elle m'a dit, voilà votre place, là, il y a un chevalet, mettez-vous au travail. Alors c'est sûr que je ne savais pas tout de suite quoi faire, même si d'habitude je savais quoi faire tout seul. Mais là, je suis dans une école, faut me dire. Puis non, on s'est mis au boulot, enfin je me suis mis au boulot, j'ai fait des trucs. Alors elle donnait quand même 2-3 conseils. Son acte le plus puissant, je trouvais, c'est qu'elle avait des tubes de peinture qu'elle avait récupérés chez un artiste décédé. Et puis alors, de temps en temps, elle nous amenait une couleur. Puis c'était alors, vous utilisez beaucoup d'orange, voilà du orange. Ou bien alors, vous n'utilisez pas assez d'orange, voilà du orange. Un jour, elle m'a dit, faut enlever le noir. Je faisais des formes en noir, puis je remplissais les surfaces. Elle m'a dit, il faut enlever le noir, débrouillez-vous. J'ai dit, ok, je commence à enlever le noir. Il faut remplacer chaque trait noir par une couleur, donc c'est vrai que ça demande à réfléchir. Puis à la fin, il restait 2 taches noires. Elle me dit, il reste 2 taches noires. Je lui dis, mais je trouve qu'elles vont. Elle me dit, moi non, enlevez-les. Et puis c'était cool, ça, c'est sûr. De toute façon, il faut le faire dans la vie. Parce que c'est comme ça que tu apprends des choses, tu vois qu'en fait il y a d'autres solutions et qu'il faut enrichir ton vocabulaire et que peut-être que tu vas revenir avec du noir. Moi je me suis jamais passé de noir. Il y a beaucoup de peintres qui évitent le noir. Mais
pourquoi est-ce qu'on évite le noir en peinture ?
Ouais, je sais pas, faut demander à ceux qui évitent le noir.
Non, parce que si je pense à Soulages, ils ont lui l'évite.
Ouais, Soulages c'est un autre cas. Mais on évite.
Ça s'appelle au dessin, c'est ça.
Ouais, on est voilà, c'est par rapport au côté dessin et puis un peu cette peur de se limiter à dire on délimite des formes. Et puis autrement dans les mélanges, on peut croire que ça sera plus vibrant de faire du noir avec du brun et du bleu. C'est sûr que si on met du brun et du bleu, après on met un peu plus de brun, un peu plus de bleu, on peut faire varier son noir. Mais moi, si je prends du noir, je mets un peu de jaune, il varie aussi. Donc, chacun son truc.
Dans cette école d'art à Genève, justement, C'est là que vous découvrez vraiment la peinture à l'huile ou parce que vous parliez d'acrylique dans un autre épisode. Donc là, est-ce que vous allez...
Acheté de l'acrylique. Non, j'avais déjà fait un peu. Mais c'est vrai que j'avais fait pas mal d'acrylique, puis je m'étais mis à l'huile avant de rentrer à l'école. Non, ça, j'avais déjà un peu mes marques. J'ai appris d'autres choses. J'ai appris à monter des toiles. J'ai appris... des détails. Quoi.
Mais la peinture à l'huile, on sait que c'est une technique qui est plutôt lente.
Ouais.
Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous avez plusieurs toiles, des dossiers ouverts chez vous.
Bien sûr.
Parce qu'on ne peut pas la travailler en permanence, il faut la laisser reposer, il faut la laisser infuser, etc. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi l'huile. Pourquoi vous aimez cette technique, Alexandre Loye ?
Ah, mais ça, alors on fait un saut dans le temps, parce qu'en fait, entre deux, je suis passé par d'autres choses. J'ai fait très longtemps de la peinture à la caséine, qui est une sorte de tempéra, donc une peinture à l'eau, qui a d'autres caractéristiques. Je suis revenu à l'huile, ça fait maintenant une dizaine d'années. Et effectivement, pour ce côté plastique de ça sèche pas, tout de suite, sur le moment, on peut mélanger. Ben, si on laisse sécher, on peut superposer. C'est une grande richesse, quoi. Donc, c'est tout un orchestre, la peinture. Enfin, moi, je dis, ce que je faisais avec la caséine, je dis, c'est un peu un xylophone, en fait. Donc, moi, j'ai les orgues, quoi. Avec l'huile, il y a les orgues. On peut aller de là à là. C'est la tessiture de l'instrument, quoi. Elle est beaucoup plus grande.
Donc, si on retourne à ces premières années de formation, à l'école. Bah, d'ailleurs, est-ce que c'est une formation ? On peut parler de ça ? Est-ce qu'on apprend quelque chose réellement ?
Oui, bonne question, oui. Mais des fois, on dit, est-ce que l'art s'apprend ? Alors, sans doute que l'art, non. Mais sur la peinture, en tout cas, on peut apprendre plein de trucs. Parce que c'est de la matière. Oui, sur la peinture ou dans la peinture, avec la peinture. C'est une matière. Il y a des trucs qu'on apprend par expérience, puis il y a des trucs, ça vous aide si on vous dit. Si vous savez qu'une couleur est plus ou moins opaque, plus ou moins colorante, ça donne ça ou ça quand on superpose, ça donne ça ou ça quand on juxtapose. C'est des expériences qu'il faut faire, puis c'est des expériences où les gens peuvent vous aider, parce que quand vous faites votre truc, il y a des idées que vous n'avez pas. C'est comme on revient au truc du noir, là. Moi, je me disais, ça fonctionne bien comme ça, mais la prof, elle me dit, vous pouvez essayer autre chose. Bien entendu que ça, à quelque part, ça s'apprend. Ça s'apprend pas à faire juste, ça s'apprend à faire toutes les expériences qui développent l'œil comme on développe l'oreille, en fait. Je pense, comme pour un musicien qui développe son oreille.
Mais quand vous dites l'art ne s'apprend pas, donc je vois tout de suite un art avec un A majuscule. Ouais. Mais vous pensez que l'art existe, hein, Alexandre Loye ?
Probablement pas. Mais justement, parce que là, il y a une partie de l'école d'art qui est justement traite d'art. Alors les gens vont parler d'art et d'histoire de l'art, et c'est bien sûr très bien, il faut être au courant, il faut regarder des choses, il faut s'y connaître un peu. Mais je ne sais pas si c'est en... Pour moi, c'est pas en réfléchissant à la notion d'art qu'on devient artiste. C'est en réfléchissant à plein d'autres choses. Après, on réfléchit aussi à quoi sert l'image, à quoi sert le langage. Mais c'est quoi l'art ? C'est trop compliqué. Puis en plus, après, si on dit c'est quoi l'art d'aujourd'hui ? C'est quoi l'art qu'il faut faire pour demain ? C'est trop compliqué, on ne sait pas. C'est trop stérile, presque. Ce n'est pas un terrain où ça va pousser, pour moi.
J'imagine que vous parlez beaucoup de pratiques, de techniques, ouais. D'expérimentation, de physiologie, d'empirisme. Mais c'est vraiment important. Mais dans ces années d'école, on peut imaginer aussi qu'il y a des cours théoriques d'histoire de l'art.
Bien sûr.
Et là, qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous y alliez ? Est-ce que c'est stérile pour vous ?
Non, mais j'ai fait mes bases. Après, les choses d'histoire de l'art, beaucoup de choses que je connaissais déjà, parce que moi, j'avais lu de bouquins aussi. Donc après, on connaît. En tout cas, l'histoire du XXe siècle, 19e, 20e, ça va, c'est pas trop difficile à apprendre. Et puis, on peut peut-être rencontrer certaines choses un peu plus théoriques, un peu de réflexion qui peut être intéressante. Moi, j'ai suivi aussi cours de philo là-bas, ça me plaisait bien, une prof de philo sympa. Rien à voir avec l'art, mais j'aimais assez. Je sais pas ce que j'en ai retiré, mais j'aimais assez. Mais j'aimais mieux ça. Enfin, ce que j'aime pas trop, en fait, c'est, je sais pas si c'est même pas la critique d'art, c'est un peu les théoriciens de l'art. Enfin, il y en a qui sont très bons, hein, mais à l'école, j'ai pas rencontré, disons, des discours sur l'art qui m'ont passionné. Je trouvais plutôt que c'était à dire, c'est quoi qui est dans la tendance. Moi, c'est ça que j'ai entendu tout le temps, en fait.
Bah, justement, mais vous étiez pas vraiment dans la tendance.
Bah non, moi, j'étais totalement à côté. Moi, comme on m'a dit, la tendance, c'est par là. Moi, j'étais dans l'autre sens. Je suis devenu.
C'était quoi la tendance, Alexandre Loye ? Géométrique ?
Non, pas du tout, pas trop alors à Genève. Plutôt l'installation, la vidéo. C'est pas qu'énormément de gens faisaient ça, mais par contre, on nous poussait fort par là. Puis alors, quelqu'un qui dit « Non, mais moi, je veux peindre. » Puis « Non, je veux peindre. » C'était tout le temps « Ah, mais ces gens qui s'intéressent que à peindre. » Mais zut, quoi. Vous savez pas ce que je vais devenir, ce que je vais pouvoir faire. Bien sûr, vous m'incitez à faire autre chose, fortement, en disant que c'est ça l'avenir, mais est-ce que vous savez? Est-ce que vous pouvez savoir à ma place? Est-ce que vous voulez pas me laisser me planter, franchement, là où moi j'ai envie d'aller, plutôt que de tenter de m'assurer le coup, en disant que l'art de demain, ça sera ça, puis je dois faire un truc que j'y crois pas. C'était pas si facile, à ce moment-là.
Donc en fait, vous avez vécu une sorte de résistance.
Alors moi, j'ai rejoint le camp des... J'ai dit, c'est les vieux pépés, c'est les peintres passéistes. On était le... J'ai été dans l'atelier des peintres passéistes, puis on voulait peindre des pommes, alors voilà. Enfin, des pommes, moi, j'ai jamais réussi une pomme, mais... Non, on essayait de peindre... Quelque chose d'un peu traditionnel, si on veut, mais moi, j'en ai eu besoin à un moment, en fait. Enfin, j'ai bien vu que mes barbouillages, j'y arrivais à faire. Mais que tout à coup, les peintres que j'aimais, ils avaient appris à regarder...
C'était qui, Cézanne, Bonnard?
Alors, ça, justement, ils sont arrivés un peu à ce moment-là, Cézanne, Bonnard, il y avait Kokoschka, je dis, c'est toujours resté, parce que j'ai un bouquin, c'est un des rares trucs, j'ai un bouquin depuis cette époque-là, à moi, parce qu'autrement, j'allais à Bibio. Kokoschka, par exemple, c'est tout simple, mais ils regardent, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, oui, beaucoup, j'aimais bien aussi Kirchner, et comme ça, mais alors ça, j'ai jamais compris comment ils regardent, mais par contre, ils regardent.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des peintres... qui sont restés dans la figuration, mais qui sont allés très très loin aussi dans une sorte d'abstraction du réel. Et vous aussi, vous restez dans le figuratif, mais on a toujours l'impression que c'est justement pour nous faire aller ailleurs. Pour quelle raison? Pourquoi ce recours à la réalité visible?
Ah, c'est une histoire extraordinaire ça, mais est-ce que je vais arriver à la raconter? Non, il faut prendre le chemin le plus court d'abord pour dire ça. C'est que moi, les couleurs sur une toile, donc si on parle de l'abstraction, mettre des couleurs sur une toile, je trouve ça très beau, ça me plaît beaucoup. Mais ça me semble un coup, une jolie surface. On peut tout faire. Et puis, par contre, le visible, dire on prend une photo, c'est la même chose, c'est un coup. On regarde, puis c'est fini. Et moi, ce que j'aime, c'est l'endroit où va se rencontrer le langage abstrait des formes et des couleurs avec quelque chose qu'on voit ou qu'on ressent. Et pas à dire « on ressent, j'ai peint tout ce tableau tout bleu parce que je ressens bleu », mais vraiment, c'est une émotion qui peut vous prendre, une sensation qui peut vous prendre. C'est ça qui m'a toujours passionné. Très simplement, c'est le langage qui rencontre la réalité. Le langage qui ne rencontre pas la réalité, il n'est pas intéressant, à mon avis.
C'est assez efficace comme explication. Justement, mais plus je vous écoute, moins je peux vous poser des questions que je pourrais adresser à d'autres artistes. Mais parce que si je vous demande quel regard vous portez sur le monde de l'art, en fait, vous en portez un?
Non, pas énorme. J'aime bien le boulot des copains. Je suis ce qu'ils font. Après, je regarde ça, je regarde des choses, comme je peux regarder d'autres choses. En fait, je regarde les nouvelles. Des fois, je vois aussi de l'art. Ailleurs.
Mais pour quelle raison pensez-vous que dans cette école d'art à Genève, l'installation, les environnements n'auraient pas pu vous donner cette satisfaction que vous donne, enfin cette satisfaction, ce plaisir ou ce questionnement que vous offre la peinture? Comment vous le savez ça, Alexandre Loy?
Non, là il y a deux réponses, c'est-à-dire peut-être ça aurait pu, mais simplement j'ai pas pris. Réponse crack-boom. Mais une autre chose... C'est que là, moi, je voyais un truc que je pressentais, mais je crois que je voyais assez clairement. C'est que je trouve que la question de regarder, d'apprendre à traduire ce qu'on voit et de questionner les apparences, n'était pas posée de la même façon que, par exemple, je voyais que j'aimais, par exemple, chez Cézanne. Alors, Cézanne, on disait, on ne peut plus peindre comme Cézanne. C'est une des phrases que j'ai entendues le plus. Et puis, sinon, ça m'est revenu il n'y a pas longtemps, c'est vraiment un truc guignolesque. Cézanne, c'est intéressant, ça préfigure le cubisme. Mais non, Cézanne, c'est intéressant. Cézanne, c'est présent, c'est pas de l'histoire de l'art. Si vous pouvez être présent devant un Cézanne, il vous parle aujourd'hui. Et j'avais l'impression que ça, c'était pas écouté ou pas vu, que certaines personnes qui nous poussaient de ce côté installation et comme ça, voyaient que l'art en termes d'histoire et d'innovation. Mais ne vibraient pas devant une peinture. Et moi, oui. Alors j'ai dit, moi, je veux comprendre pourquoi je vibre devant une peinture. Je veux en faire qui vibre.
Mais au fond, vous êtes presque plus passionné par vos peintures qui vibrent que d'aller voir celles des autres qui vibrent.
Ah, bah si les autres sont bonnes, je suis très content. Mais seulement, j'ai pas le temps tellement d'aller les chercher parce que j'en ai beaucoup à faire. Donc, je vais pas me passer trop de temps à m'occuper d'aller voir des mauvaises peintures pour si par hasard, il n'y en aurait pas une bonne.
Ce qui me frappe beaucoup, Alexandre Loy, c'est que dans... vous êtes un tout petit peu plus âgé, mais de quelques années, qu'un autre artiste valaisan qui va avoir le vent en poupe. Je pense à Valentin Caron, qui a été une sorte d'artiste qui a flamboyé dès sa sortie de l'école, cantonale d'art de Lausanne, qui va aussi représenter la Suisse à la Biennale de Venise il y a quelques années, qui est vraiment, mais dans une démarche tout autre que la vôtre. C'est vraiment une carrière aussi fulgurante, internationale. C'est un valaisan. Et je me demandais, justement, j'avais envie d'avoir votre regard sur ce type de chemin.
Moi, je ne connais pas beaucoup. Hein. Je pense que vous parlez de ça, c'est un peu à titre d'exemple aussi, comme un type de carrière. C'est effectivement exactement ce qui ne m'est pas arrivé. Je ne suis pas sorti de l'école en disant, voilà, il y a quelque chose qui va se passer, et puis des gens qui me soutiennent ou qui me poussent. Et ouais, je peux dire, c'est presque pas le même métier, en fait. C'est clair que ça s'appelle art, toujours. Mais c'est comme une autre, totalement autre manière de concevoir le temps, l'évolution du travail, à qui il s'adresse, comment il s'adresse, où c'est qu'il va trouver sa place. Voilà, tout qui est différent. Je suis assez content de ma façon de faire dans la mesure où je ne suis pas mort.
Comment est-ce que je dois le prendre, ça, si vous n'êtes pas mort? Ça veut dire quoi?
Mais parce qu'il y a eu des longues périodes où il n'y avait pas beaucoup d'ouverture pour mon travail, donc il a fallu bidouiller, s'encourager à continuer, compter sur quelques copains par rapport au retour, à l'écho, à l'importance de ce qu'on fait, se contenter de quelques personnes qui vous disent « vas-y, croche, ça vaut le coup, c'est intéressant ». Puis aussi matériel, bon, je pense pas que je me serais laissé mourir de faim, on est en Suisse, mais quand même, à certains moments, vous savez pas si ça va passer ou casser, comme on dit.
D'autant plus que vous vivez de votre art, vous n'êtes pas quelqu'un qui enseignait... Voilà quoi, vous êtes très radical de ce point de vue-là.
En grande partie, parce que j'ai quand même enseigné un peu, je donne toujours des cours du soir de temps à autre, mais c'est vrai que je tenais assez à pouvoir faire ça tout le temps, donc du coup il fallait gagner de l'argent aussi en faisant ça.
Et il n'y a jamais aucun regret?
Tiens.
Ou une peur ou une crainte?
Ah, les peurs, il y en a, il y a toujours de la peur. Il faut juste être plus fort que la peur. Si possible, il ne faut pas anticiper. On parlait tout à l'heure des tests Covid. Là, ce qui fait le plus peur, c'est le truc dans le nez, c'est de le voir. Alors que si on y va, on va affronter ça. Alors la peur du lendemain, c'est la même chose. Faut attendre que le lendemain arrive. Puis là, c'est bon, on n'a plus peur.
Mais est-ce que ce serait un moteur, la peur?
Fait partie. Ça, les moteurs, c'est une question de proportion. La joie, moteur. La peur, moteur. L'angoisse, moteur. La révolte, moteur. L'amour, moteur. Tout peut nous mouvoir. Le truc, c'est que s'il y a trop, même le succès, c'est un moteur, mais s'il y a trop, l'adversité, c'est un moteur, mais s'il y a trop. Donc,
tout est une question d'équilibre, au fond.
C'est une question d'équilibre, c'est une question de proportion, puis de métaboliser ces choses. Et après, je pense que dans une vie, c'est une question aussi de combien de temps on tient avec quoi. On peut pas, on peut peut-être, mais enfin, toute une vie dans l'adversité, ça va pas. Peut-être toute une vie dans la facilité, ça irait pas non plus. En tout cas, pour moi, je culpabiliserais. Moi, je sais que, ma famille, ils ont un peu bavé. Du coup, j'aurais pas non plus envie que tout roule. Je pense que je me serais senti mal à l'aise.
Qu'est-ce que vous nous offrez à entendre pour cette fin de troisième épisode?
Ah, alors j'y pensais un petit Brassens. Du coup, je suis plus sûr s'il tombe bien, mais je pense quand même qu'on va le garder pour cette époque-là. Ça s'appelle « Les oiseaux de passage ». C'est un texte de Jean Richepin, poète pas très connu, mais je crois fin 19e. Et puis qui me touche particulièrement pour son contenu, parce que finalement, elle parle des artistes, mais aussi, on peut dire, des squatteurs. Elle parle de la marginalité, mais aussi de cette envie d'essayer d'aller ailleurs que ses voies tracées, en fait. Tenter le coup.
Alors, on va tenter le coup. À demain, Alexandre.
À demain.
Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents, Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que onc, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous ont ainsi fait vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant « Oh les gens bienheureux !» Tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol en forme de triangle arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Tout cela sent bon la lutte des classes. Les bourgeois en prennent pour leur grade dans ce poème de Jean Richepin, Les oiseaux de passage, mis en musique par Georges Brassens. Une chanson choisie par Alexandre Loeil pour conclure le 3e épisode de Sa vie à peu près. Nous retrouvons le peintre demain, jeudi, toujours au micro de Florence Grivel. Dans l'immédiat, pour aller jusqu'à 13h, Luc Thérapon vous propose une programmation musicale de son choix, à commencer par 5 variations tirées des variations et fugues sur un thème de Mozart pour orchestre de Max Reger, l'orchestre de la radio bavaroise et dirigé par Colin Davis. Variation 3 à 7, tirée des variations et fugues sur un thème de Mozart. Une partition signée Max Reger, interprétée là par l'orchestre de la radio bavaroise, sous la conduite de Colin Davis. Musique de chambre maintenant, le quatuor Martinou interprète le deuxième mouvement du quintet pour deux violons, alto et deux violoncelles de Sergueï Taneïev.
Thank you.
Eh bien voilà une interprétation fidèle à l'indication « Vivace con fuoco ». C'était le deuxième mouvement du quintet pour deux violons alto et deux violoncelles en sol majeur de Sergueï Taneïev, interprétation que l'on doit au quatuor Martinou. Et nous poursuivons cette traversée musicale sur Espace 2 avec quatre esquisses pour piano du compositeur Reinhold Glier. Anthony Goldstone est au clavier.
Thank you.
Religioso, poco agitato, allegretto, ma non troppo et allegro giocoso. Anthony Goldstone interprétait là les esquisses pour piano numéro 8, 9, 10 et 11 de Reinhold Glier. Et comme il nous reste quelques minutes à partager jusqu'à 13h, nous allons le faire avec le premier mouvement de la symphonie numéro 3 en ré majeur de Kurt Atterberg. Le Rundfunk Orchestra de Hanovre est placé sous la baguette de Harry Rassilainen. Voilà, nous allons nous quitter avec cette partition du compositeur suédois Kurt Atterberg. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Je vous retrouve très volontiers demain pour le 4e chapitre de La vie à peu près, consacré au peintre roman Alexandre Loy. Merci à Florence Grivel, Sophie Grécoucho, Sophia Muller et Luc Thérapon qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Je vous souhaite de passer un bel après-midi.
Pour sa 21e édition, la Schubertiade d'Espace 2 invite les 4 et 5 septembre prochains les musiciennes et musiciens suisses au cœur de la ville de Fribourg. Solistes, ensemble instrumental ou choriste, faites-nous part de vos propositions de programmes de concert et envoyez votre candidature. Renseignements sur schubertiade.ch et inscription à muse.schubertiade@rts.ch.